Pardon, dans le livre de l'Exode, on va terminer la deuxième partie du message de la semaine passée. Exode, chapitre 32. On va commencer au chapitre 33. Nous allons lire les 6 premiers versets. L'Éternel dit à Moïse, « Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, « Je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je le chasserai. » Et je chasserai, pardon, les Cananéens, les Amoréens, les Éthiens, les Phérisiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple aux raide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, « Dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple aux raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. » Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Prions. Seigneur, encore une fois, nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta sainte parole. Merci, Seigneur, de nous rappeler que tu es un Dieu saint. Merci aussi de nous rappeler, Seigneur, combien tu nous as aimés en envoyant Jésus-Christ chercher, sauver ceux qui étaient perdus, dont nous étions du nombre. Merci, Seigneur, d'avoir manifesté ton amour à travers la personne de Jésus. Et merci aussi de nous avoir donné cette grande espérance que nous avons en tant que peuple de Dieu. À savoir qu'un jour, tu nous ramèneras aussi de la mort à la vie et nous passerons l'éternité dans ta présence, dans ce ciel, dans ce paradis merveilleux que tu es en train de nous préparer. Bénis ta parole ce matin, Seigneur, qu'elle puisse parler à nos cœurs, qu'elle puisse, Seigneur, nous fortifier, nous exhorter, nous reprendre, nous encourager. Mais surtout, Seigneur, de nous faire voir combien tu es un Dieu qui est grand, patient, lent à la colère et qui aime ses enfants. Qui aime, Seigneur, que ses enfants marchent dans la vérité et qu'ils puissent, que tu puisses manifester ta gloire à travers eux. Et c'est en Jésus-Christ que je te prie. Le peuple de Dieu dit Amen. Alors, la semaine dernière, on va faire un petit résumé pour ceux qui n'étaient pas là, pour qu'ils puissent être capables de suivre la deuxième partie. La semaine dernière, nous avons vu que le bien le plus grand, l'accomplissement le plus merveilleux, eh bien, c'était de connaître Dieu intimement et de bénéficier de sa présence. Si vous connaissez Dieu personnellement, et s'il est aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, une réalité vivante qui éclaire vos pensées et vos vies, vous connaissez la plus profonde joie qui puisse remplir le cœur de l'homme. Vous avez comblé le plus grand besoin de votre âme et vous avez atteint ce pourquoi vous avez été créé, connaître Dieu personnellement. C'est extraordinaire quand on y pense. Nous qui sommes une poussière dans l'univers, c'est extraordinaire de réaliser que ce Dieu qui tient l'univers dans ses mains a décidé, a voulu depuis toute éternité se révéler non seulement à l'homme, mais aussi vivre une relation personnelle avec sa créature. C'est extraordinaire quand on y pense que ça a été donné uniquement à l'homme. C'est vrai que les anges sont autour du trône de la grâce de Dieu et qu'ils prient à chaque jour, qu'ils louent le Seigneur Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Mais je parle au niveau de la créature qui est appelée à vivre sur la terre. Nous sommes les seuls qui avons cette capacité, parce que Dieu nous a donné un esprit, c'est parce que Dieu est esprit, nous avons cette capacité d'avoir une relation, d'avoir un contact avec le Dieu Tout-Puissant. Ça, ça fait partie de l'amour de Dieu. C'est extraordinaire, extraordinaire. Dieu t'amène à ça. Quand on y pense comme il faut, c'est incroyable. Et quand le monde essaie de nous déplacer, nous déranger, nous faire bifurquer de cette réalité que Dieu cherche à travers l'Évangile à nous faire saisir, je suis un Dieu qui veut vivre une relation intime et personnelle avec toi. C'est quelque chose, ça. C'est quelque chose. Dieu n'est pas un Dieu qui est rancunier, heureusement. Heureusement, Dieu nous aime et Dieu utilise les moyens pour nous, non seulement nous rapprocher de lui, mais pour nous garder à lui. L'adoration, c'est profiter, c'est bénéficier, avons-nous dit la semaine passée, de la présence de Dieu. C'est tout ce dont nous avons besoin, rien de moins, rien de plus. La semaine dernière, nous avons vu dans Exode chapitre 33, les versets 1 à 3, que le peuple juif se trouvait dans le désert. Et alors qu'il se dirigeait vers la terre promise, les Israélites vont pécher contre Dieu. Et Dieu va dire à Moïse qu'il ne monterait pas au milieu de son peuple, mais que c'est un ange qui allait les escorter vers la terre promise. Qu'est-ce qui avait provoqué cette décision du Seigneur? Moïse était monté sur le Sinaï pour recevoir les 10 commandements et les instructions concernant le tabernacle. Et pendant l'absence de Moïse, son frère Aaron va succomber aux demandes du peuple et il va fabriquer un veau, un dieu en métal fondu, devant lequel le peuple va offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Et averti par le Seigneur, alors qu'il est sur la montagne, Moïse descend et il voit le peuple en train de festoyer, commettant des actions immorales, faisant des choses terribles et dansant autour d'un veau d'or. Et en colère, Moïse va jeter les tables, il va les briser au pied de la montagne. Il va ensuite prendre le veau qu'ils avaient fabriqué et il va le brûler. Il va le réduire en poudre. Il va répandre cette poudre à la surface de l'eau et il va faire boire les enfants d'Israël. Et cette journée-là, 3000 personnes vont mourir. 3000 personnes. Le lendemain, Moïse se lève, il s'adresse au peuple. Il va leur dire qu'ils avaient commis un grand péché. Il monte vers l'Éternel pour obtenir son pardon. Il est même prêt à être rejeté par Dieu pour que le peuple soit épargné. Frères et sœurs, c'est une belle image de Jésus-Christ qu'on a ici. Christ était prêt à être rejeté par Dieu pour qu'on soit épargné de passer l'éternité séparé de Dieu. C'est une très belle image ici quand on regarde la prière de Moïse. Efface-moi de ton livre de vie, mais laisse la vie aux membres de ton peuple. Christ a préféré mourir, subir pour nous la condamnation, afin que nous soyons épargnés. Et c'est une grâce que Dieu nous accorde en Jésus-Christ encore aujourd'hui. Dieu en Jésus-Christ nous appelle à nous en remettre à lui, à nous en remettre à son sacrifice sur la croix, encore une fois, pour que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés et être épargnés d'un terrible jugement qui, tôt ou tard un jour, va apparaître. La Bible nous le dit et nous y croyons. Et c'est alors que Dieu répond favorablement à la prière de Moïse, tout en lui disant qu'il allait les faire entrer dans le pays qu'il leur avait donné. « J'enverrai mon ange, dit-il, qui marchera devant toi, je vais les protéger, je vais pourvoir à leurs besoins, mais je ne monterai pas au milieu de toi. » Les frères et sœurs, ne nous contentons jamais de savoir que Dieu nous protège, que Dieu pourvoit nos besoins, que nous sommes en route vers la terre promise, que vaut toutes ces choses si Dieu n'est pas au milieu de nous. Car lorsque nous avons la certitude que Dieu est au milieu de nous, nous n'avons besoin de rien d'autre. Et c'est pour ça que Moïse, au chapitre 33, à un moment donné, dira au Seigneur, « Fais-moi voir ta gloire. » Le seul moment où Dieu peut faire voir sa gloire au milieu de son peuple, à son peuple, c'est quand il est présent au milieu de son peuple. « Fais-moi voir ta gloire. » Et la gloire de Dieu, frères et sœurs, aujourd'hui, elle se manifeste à travers la présence de Dieu. Dieu est présent au milieu de son peuple. Elle se manifeste au travers de la puissance de Dieu. Dieu touche des cœurs à travers l'Évangile. Il attire encore des gens vers lui. Et la gloire de Dieu se manifeste quand les enfants de Dieu marchent dans la vérité. Eh bien, on est capable de manifester, c'est l'amour de Christ qui se manifeste, non seulement au milieu du peuple de Dieu, mais aussi dans ce monde qui est perdu. Et Moïse ici, lorsqu'il reçoit la conviction que Dieu répondit à sa prière et qu'il va accompagner le peuple, il a supplié le peuple. Et il va dire, « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Manifeste-toi, Seigneur. » Et on sait, on connaît la suite, au chapitre 33. Mais c'est une bénédiction pour le peuple de Dieu de savoir que Dieu manifeste sa gloire, veut manifester sa gloire dans ses enfants et à travers ses enfants. Je vous pose donc la même question ce matin que je vous ai posée la semaine dernière. Est-ce que Dieu est une réalité dans votre vie ce matin? Est-ce que la présence de Dieu est pour vous une réalité aujourd'hui? Ou faites-vous simplement votre devoir en venant à l'église le dimanche matin tout en n'étant pas vraiment intéressé? Si c'est votre cas, je le répète, le message est pour vous ce matin, parce que l'adoration, c'est apprécier, c'est profiter, c'est bénéficier de la présence de Dieu. C'est tout ce dont nous avons besoin, rien de moins et rien de plus. Et je redis ce que j'ai dit la semaine passée. L'être le plus malheureux sur la terre, c'est pas celui qui ne connaît pas Dieu. L'être le plus malheureux sur la terre, c'est celui qui connaît que Dieu, mais qui ne bénéficie pas de la présence de Dieu dans sa vie. C'est le chrétien, finalement, qui vit contrairement à la parole de Dieu et qui est privé de la présence de Dieu. Ça doit être une souffrance épouvantable. Celui qui est dans le monde, ça fait pas de différence. Qui vit dans le péché, qui ne vit pas dans le péché, il va subir des conséquences. Mais tant qu'il n'est pas passé par cette nouvelle naissance, la présence de Dieu, elle n'est pas en lui. Mais quand on est passé par cette nouvelle naissance et que Dieu a décidé de faire de son enfant son temple, son habitation, pour se manifester à travers lui, et qu'à un moment donné, parce qu'on fait des compromis dans notre vie, eh bien, Dieu quitte ce temple. Dieu, c'est pas dans le parvis qu'il va habiter. Dieu, c'est dans le lieu très haut qu'il va habiter. Et le lieu très haut, on sait qu'est-ce que c'est, hein? C'est un synonyme de pureté. C'est un synonyme de sainteté. Amen. Frères et sœurs, qu'est-ce qui nous rend si différents des autres nations? C'est le fait que Dieu manifeste sa présence au milieu de nous. Mais alors, qu'est-ce qui amène Dieu à ne plus manifester sa présence au milieu de son peuple? La semaine passée, j'ai mentionné qu'il y avait quatre choses qui nous privaient de la présence de Dieu. Et j'ai aussi dit que ce sont ces mêmes quatre choses qui nous empêchent d'apprécier sa présence. Nous avons vu que la première chose qui nous privait de la présence de Dieu et que notre texte mettait clairement en lumière, c'était qu'ils avaient désobéi à Dieu, la désobéissance à Dieu. Et on avait lu ensemble les versets 32, Exode 32, les versets 7 à 8. L'Éternel dit à Moïse, « Vas-y, descends car ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite. Et parce qu'ils avaient désobéi à Dieu, Dieu s'était retiré du milieu de son peuple. » Frères et sœurs, c'est à travers les membres du peuple de Dieu que le monde peut voir que Dieu est encore à l'œuvre aujourd'hui, comme il l'était à l'époque de Moïse. Et c'est à travers le Saint-Esprit que Dieu manifeste sa présence au milieu de son peuple. Et je l'ai dit la semaine passée, on ne rentrera pas dans ces détails-là, mais lorsqu'en tant qu'enfant de Dieu, on attriste le Saint-Esprit, on éteint le Saint-Esprit, eh bien, frères et sœurs, c'est là que des gens remettent en doute leur salut. Pourquoi? Parce que sans la présence de Dieu, on voit plus la différence avec avant de connaître Christ et après avoir connu Christ. La présence de Dieu, c'est un privilège que Dieu donne à ses enfants. On en a parlé mercredi à l'étude biblique. Il y a un deuxième privilège que Dieu donne à ses enfants, Boris. Boris, deuxième privilège qui est donné aux enfants de Dieu, la délivrance du péché. Dites amen à ça aussi. Frères et sœurs, écoutez, dans le monde, j'étais esclave de certains péchés. Dans le monde, je pratiquais certains péchés. Dans le monde, je vivais avec certains péchés que j'appréciais, que je dorlotais, que j'adorais. Mais j'étais pas capable de m'en délivrer. Oh, j'ai arrêté de fumer. Oui, mais ça, c'est par mes propres capacités. J'ai arrêté de fumer. Ouais, mais j'en étais pas délivré. C'est quand je suis venu au Seigneur que j'ai dû demander la délivrance au Seigneur pour me délivrer de la cigarette. Frères et sœurs, si en venant au Seigneur, en passant par la nouvelle naissance, par rapport au péché, il n'y a aucune différence. Alors, dites-moi ce qu'il y a dites-moi quelle est la puissance qui se cache derrière la croix. S'il n'y a pas de différence avant qu'après ou après qu'avant. John Wesley, et je le soutiens, d'autres l'ont dit aussi, le privilège du chrétien, c'est la délivrance sur le péché. C'est la délivrance sur la puissance que le péché exerçait dans ma vie avant de connaître Christ. C'est la délivrance sur la puissance que le diable exerçait dans ma vie avant de connaître Christ. C'est la délivrance sur la puissance que le monde exerçait dans ma vie avant de connaître Christ. Frères et sœurs, s'il n'y a pas de différence après qu'avant, je dois me poser des questions sur la réalité de ma rencontre avec Jésus-Christ. Je ne cherche pas à juger, je ne cherche pas à condamner, mais moi, je suis votre pasteur, et j'essaie simplement de vous amener à réfléchir que la conversion, c'est pas de venir à l'église à tous les dimanches, c'est de pas avoir passé par les eaux du baptême, c'est pas de prendre la Sainte-Cène à tous les dimanches. La conversion, c'est une rencontre personnelle et intime avec la personne de Jésus-Christ. Je suis capable de dire, à un moment donné, j'ai reconnu que j'étais perdu, j'ai reconnu que j'étais pécheur, et que aucune œuvre ne pouvait m'apporter le pardon de mes péchés. Il n'y a aucune religion qui peut m'apporter le pardon de mes péchés. Il y a une seule personne qui peut m'apporter le pardon de, mes péchés. Et c'est à travers l'œuvre qu'il a accompli à la croix uniquement. Et c'est de m'humilier et de dire, Seigneur, je te loue, je te bénis, que tu as eu pitié de moi, que dans ton amour, tu as sacrifié ta vie. Tu as pris le châtiment que je méritais, la punition pour mes péchés. Tu l'as pris sur toi. Et en retour, c'est ça l'échange qu'il y a à la croix. Moi, je lui donne ma condamnation et en retour, Dieu me donne la justice, sa justice. Ça veut dire quoi? Il a été condamné à ma place. C'est ça l'échange qu'il y a à la croix. Quelqu'un qui est en colère, qui est né de nouveau, c'est ça l'échange à la croix. On dit, je viens porter mes fardeaux à la croix. Oui, mais laisse-les là. Et Dieu dit, Dieu va te donner un échange. Quand quelqu'un est coincé avec la colère, il n'est pas capable de régler le problème de sa colère, tu viens à la croix. Tu es né de nouveau, viens à la croix. C'est un privilège qui t'est donné en tant qu'enfant de Dieu. Seigneur, je m'en viens déverser ma colère. Je reconnais que je suis esclave, je suis facilement irritable, je suis un colérique. Là, qu'est-ce que Jésus fait? Eh bien, il prend ta colère et il déverse une portion de son amour encore plus grand dans toi. Et c'est là qu'il y a un miracle qui se passe. Ça fait partie de la nouvelle naissance, tout ça. C'est une belle thérapie à la croix, hein? C'est une très belle thérapie, hein? Le problème, c'est qu'on saisit, on prend la croix uniquement pour le pardon des péchés. Ah non, hein? Le miracle, il continue après. La croix, elle reste vivante dans notre vie. Le problème, c'est qu'on ne le saisit pas toujours. Et là, on a besoin d'une autre béquille à droite et à gauche pour se sortir du marasme dans lequel on a vécu dans le monde. Mais à la croix, la parole nous dit que Christ a tout pris. Quand on dit qu'il a pris sur lui nos blessures, c'est quoi? Tous les abus qu'on a vécu, mais il faut lui donner. Il faut lui donner. Le problème, on se convertit, on est de nouveau, mais on regarde toutes nos blessures. Il les a pris. Nos péchés, nos blessures. Et en retour, chaque blessure, il a guéri avec une dose de son amour. Ça, c'est important. Sinon, on passe par une nouvelle naissance, on vit une expérience avec le Seigneur. Mais on vit des combats toute notre vie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris que Christ a pris autre chose que nos péchés à la croix. Il a pris nos blessures, il a pris nos meurtrissures. Et en retour, mais ce qui se trouve en lui, il veut le déverser en chacun de ses enfants. Et là, il ne pense pas nos blessures, il est guéri. Dieu nous rappelle dans l'Ancien Testament, « Je suis le Dieu qui guérit. » Amen. Et il nous l'a montré dans le Nouveau à travers Jésus-Christ. Christ a accompli des milliers de miracles. Jean, dans son dernier chapitre, nous dit que la terre n'est pas suffisamment grande pour pouvoir contenir tous les livres qu'on pourrait écrire sur ce que Jésus a fait. Mais on a l'essentiel. On a ce qui est le plus important pour nous, pour notre âme, pour nous fortifier, pour nous sauver, pour nous faire grandir, pour nous faire espérer et nous appuyer sur les promesses de la parole de Dieu. Amen. Si la première chose qui nous empêche de bénéficier de la présence de Dieu dans nos vies, c'est lorsque nous désobéissons à Dieu, la deuxième chose, et on va commencer, la deuxième chose qui nous prive de sa présence, c'est lorsque notre cœur est partagé. Y a-t-il quelque chose, frères et sœurs, ce matin, qui prend la place que Dieu devrait occuper dans votre vie? Exode chapitre 32, verset 4. Pour ceux qui ont leur Bible. Lisons encore une fois. Il les reçut de leurs mains, jeta de l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Ils dirent alors, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Je me demandais, frères et sœurs, ce qui avait poussé les gens à agir ainsi, et j'ai compris que c'est parce que leur cœur était partagé. Ils affirmaient faire partie d'Israël, et nous savons que le mot Israël signifie « peuple de Dieu ». Et pourtant, comme membres du peuple de Dieu, ils avaient fabriqué un veau en or. Ils s'étaient fabriqué un Dieu, qui n'était pas plus grand que leur imagination. Ils s'étaient fabriqué un Dieu un Dieu qui dépassait pas finalement leur imagination. Et au lieu de faire confiance au Dieu Tout-Puissant, ils ont commencé à faire confiance à ce qui était l'œuvre de leurs mains, à ce que Dieu appelle pratiquer l'idolâtrie. Chers amis, lorsque les gens se fabriquent une idole, ils ressemblent à cette idole. Dans un premier temps, l'homme façonne une idole, et dans un deuxième temps, c'est l'idole qui façonne l'homme. Qu'est-ce qu'une idole? Une idole, c'est simplement un pécheur que nous glorifions et que nous élevons. Un homme prend ses idées, Il utilise ensuite ses mains pour en faire une œuvre. Il commence à admirer son œuvre et ceci devient finalement l'objet de son adoration. Vous dites, pasteur, je ne suis pas coupable d'idolâtrie, moi. Eh bien, vérifions et voyons si vous ne l'êtes pas. Peut-être qu'il pourrait y avoir un veau d'or dans votre vie que vous l'ignorez ce matin. Qu'est-ce qu'une idole? C'est tout ce que vous aimez plus que Dieu. Qu'est-ce qu'une idole? C'est tout ce que vous craignez plus que Dieu. Qu'est-ce qu'une idole? C'est tout ce qui occupe plus de temps dans votre vie que Dieu. Qu'est-ce qu'une idole? C'est tout ce en quoi ou en qui vous faites confiance plus que Dieu. C'est C.K. Chesterton, un écrivain anglais et un défenseur de la foi chrétienne qui a vécu au 19e siècle, dit avec justesse ceci. Lorsque nous cessons d'adorer le vrai Dieu, c'est pas parce que nous n'adorons plus rien, c'est que nous adorons autre chose ou quelqu'un d'autre. Lorsque nous cessons d'adorer le vrai Dieu, ce n'est pas parce que nous n'adorons plus rien, c'est que nous adorons autre chose ou quelqu'un d'autre. Y a-t-il un péché dans votre vie? Est-ce que votre cœur est partagé? Y a-t-il quelque chose que vous aimez plus, que vous craignez plus, dans lequel vous vous investissez plus, ou encore à qui vous faites plus confiance que le Dieu Tout-Puissant? Alors, il ne faut pas s'étonner que la présence de Dieu ne soit pas une réalité dans votre cœur, frères et sœurs, et dans votre vie ce matin. Pouvez-vous répondre à cette question? Ne répondez pas à haute voix, mais tout bon dans votre cœur. Si Dieu est inexistant dans votre vie ce matin, s'il n'est pas une réalité en vous, y a-t-il quelque chose ou quelqu'un qui prend la place qui devrait lui revenir dans votre vie? Vous dites, moi j'accorde une place à Dieu dans ma vie. Le problème, c'est que Dieu ne demande pas à occuper une place dans votre vie. Vous dites, eh bien, j'ai fait une promesse dans le passé à Dieu pour ma vie. Mais le problème, frères et sœurs, ce n'est pas que Dieu méprise les promesses que vous avez pu faire dans votre vie que vous ne tenez pas. Ce que Dieu demande, c'est d'être le premier en toutes choses. Il ne se contentera jamais de moins. Amen. Y a-t-il quelque chose dans votre vie qui détermine davantage votre façon de vous comporter que la parole de Dieu? Y a-t-il une relation qui signifie plus pour vous que votre relation avec Dieu? Y a-t-il un trésor dans votre vie qui signifie plus pour vous que le salut que Dieu vous offre en Jésus-Christ? Y a-t-il quelque chose ou quelqu'un qui occupe plus de place dans votre vie que Dieu? Si c'est votre cas ce matin, vous ne devriez pas vous surprendre si je vous dis que vous avez un veau d'or dans votre vie. Dieu dit, je ne t'accompagnerai pas, je ne serai pas avec toi. Une sœur me disait dernièrement, mon mari sait que je l'aime de tout mon cœur, mais il sait aussi qu'il occupe la deuxième place dans ma vie, non pas la première. Parce qu'il sait que lorsque Dieu occupe la première place dans ma vie, je vais l'aimer d'un amour que je ne pourrai jamais lui manifester autrement si c'était lui qui occupait la première place. Vous pouvez entretenir certaines relations avec des frères, avec des sœurs, avec des amis, qui peuvent être de très belles relations, mais aucune ne peut prendre la place de la relation que vous êtes appelé à entretenir avec le Dieu Tout-Puissant. Si la première chose qui vous empêche de bénéficier de la présence de Dieu dans nos vies, c'est la désobéissance, si la deuxième chose qui nous empêche de bénéficier de la présence de Dieu dans nos vies, c'est un cœur partagé, la troisième chose qui nous empêche de bénéficier de la présence de Dieu dans nos vies, eh bien, c'est lorsque nous dépendons de quelqu'un d'autre ou que nous comptons sur quelque chose d'autre pour que Dieu pour diriger notre vie. Ce matin, est-ce que vous dépendez de quelqu'un d'autre que Dieu dans votre vie, frères et sœurs? Exode chapitre 32, versets 7 et 8. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Ils lui ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. » Le texte biblique nous révèle qu'ils ont commencé à dépendre de l'œuvre de leurs mains. Ils ont mis Dieu en colère parce qu'en fabriquant ce veau d'or avec leurs propres mains, ils lui ont fait comprendre qu'ils ne voulaient plus dépendre de celui qui leur avait fait traverser la mer Rouge. Et moi, je trouve ça très subtil ici. On ne peut pas contrôler une colonne de feu, on ne peut pas contrôler une colonne de fumée. Mais de se fabriquer une petite statue, de se fabriquer un beau veau en or, finalement, on peut dire qu'on l'adore, mais on fait quand même ce qu'on veut dans nos vies. Hein. Il ne nous jugera jamais. Hein. La statue, elle a des oreilles, elle a des yeux, Elle a une bouche, mais elle est morte. Elle n'entend rien, elle ne voit rien, elle n'est pas capable de répondre. C'est facile de contrôler une statue. C'est facile de contrôler un veau d'or. Quand je fais mal, je peux regarder le veau d'or, il ne me répondra pas. Et là, à ce moment-là, je peux soulager ma conscience en disant, ben, c'est pas si mal que ça. Ben, c'est quand même pas un gros péché. Ben, une fois de temps en temps, ça fait pas de mal à personne. Mais lorsque c'est Dieu qui dit, je suis ton maître, lorsque Dieu dit, c'est moi ton créateur, c'est moi ton sauveur, c'est moi qui t'ai libéré, voici maintenant mes valeurs morales, voici maintenant ma loi. Et je te donne ma loi parce que je t'aime. Je t'ai libéré parce que je t'aime. J'ai répondu à ta prière parce que je t'aime. Mais en même temps, tu fais partie de mon peuple et je veux que ceux qui ne me connaissent pas puissent voir que je vis en toi. Et parce que je t'aime, eh bien, quand il faudra te punir, je te punirai. Qui aime bien, châtie bien, nous dit la parole. Mais pas dans le but de nous détruire, pas dans le but de nous démolir. Dieu ne nous donne pas des raclées pour nous rendre infirmes, pour nous rendre handicapés. Dieu nous punit, on va utiliser un autre mot plus facile, Dieu nous reprend pour nous ramener sur le droit chemin. Pour dire, hey, t'es pas un étranger pour moi. Il dit à Moïse, ici au chapitre, je te connais par ton nom. Je te connais par ton nom. Je suis pas un inconnu, je suis pas un étranger pour le Seigneur. Je suis pas un deux de pique, je suis pas n'importe qui pour le Seigneur. Allez, on part, on commence, on continue. Suis la marche du peuple. Hey, la route est tracée, c'est vers la terre promise. Ne regarde pas en arrière, quiconque regarde en arrière est impropre au royaume de Dieu. J'aime bien en français courant. Il dit que quiconque, en parlant de la femme de Lot, quiconque regarde en arrière est inutilisable pour le royaume de Dieu. Frères et sœurs, en arrière, c'est le monde avec notre vie passée et toute la misère qu'il nous a apportée. En avant, c'est la délivrance, c'est la présence de Dieu dans nos vies et c'est aussi l'espérance qui nous attend et que la parole nous donne. Et si la parole nous le dit, eh bien, parce que c'est vrai, quand Dieu promet une chose, il l'accomplit. Amen. Est-ce que vous savez ce qui arrive lorsque vous agissez ainsi, lorsque Dieu vous accorde une victoire et que vous donnez la gloire à quelqu'un d'autre, à quelque chose d'autre, et que vous dépendez davantage sur cela que sur Dieu qui vous a accordé la victoire? Dieu ne sera plus présent dans votre vie. Vous vous imaginez, Dieu les délivre de 400 ans d'esclavage, Dieu accomplit des miracles, et ça prend pas beaucoup de temps, hein? Pas beaucoup de temps, ils n'ont pas fait un gros trajet là, à partir de l'Égypte où ils sont rendus présentement. Pour dire, écoute, c'est le veau d'or qui nous a délivrés. Frère, est-ce qu'on n'est pas tordu, si on n'est pas tordu, si on est tordu? Quand tu détournes tes yeux de Dieu, là, tu peux te faire croire n'importe quoi et prendre ça pour la vérité. Frères et sœurs, quand on ne prend pas du temps dans la parole, quand on détourne nos yeux de la parole, on peut se faire passer n'importe quoi pour la vérité. En 1991, alors que George Bush était président des États-Unis, les Américains vont affronter ce qu'ils pensaient être un ennemi implacable qui s'appelait Saddam Hussein. Et ils envoyèrent à eux seuls 535 000 soldats combattre dans une guerre qu'on appelait « Tempête du désert ». Moi, il m'arrivait de regarder les nouvelles sur le réseau CNN et de voir ces missiles qui survolaient les airs et qui s'écrasaient dans Bagdad. Je me souviens qu'on avait mentionné que l'assistance dans les églises américaines avait augmenté de 25 % le dimanche matin. Les gens criaient après Dieu et le suppliaient d'épargner les soldats américains et de leur donner la victoire. Les réunions de prière étaient remplies de gens qui priaient et jeûnaient, demandant à Dieu de ne pas leur permettre de s'embourber au Moyen-Orient et de faire en sorte que cette guerre dans le désert ne dure pas des années. Les gens avaient peur parce qu'il y avait un risque qu'on utilise des armes bactériologiques, des armes atomiques, particulièrement lorsque les Irakiens commencèrent à lancer des missiles Scud sur Israël, qui de son côté aurait pu répliquer en lançant des bombes atomiques sur l'Irak, parce que Israël, vous savez qu'Israël bien détient la bombe nucléaire. Et qui sait comment ce conflit aurait pu alors dégénérer. Est-ce que vous vous souvenez de cette époque ou est-ce que vous avez oublié? Des jeunes dans la vingtaine, pour la plupart, étaient envoyés en Irak. Et les gens demandaient à Dieu de les aider et de les délivrer. Chers amis, j'aimerais maintenant vous dire quelque chose. Dieu a répondu aux prières de tous ces gens. Mais est-ce que vous savez ce qui est survenu aussitôt que la guerre a été terminée. Plutôt que de rendre gloire à Dieu, est-ce que vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont réservé une reconnaissance nationale à deux hommes. On a commencé à rendre gloire au général Norman Schwarzkopf, et qui était l'officier responsable de cette opération, ainsi qu'à Colin Powell, qui était le secrétaire d'État américain. On se moquait maintenant des missiles désuets que les Irakiens avaient utilisés pendant la guerre du Golfe, et on se vantait ouvertement à la télévision d'avoir donné une leçon aux Irakiens. Je peux vous dire que tout le pays a passé à côté d'un réveil spirituel. À partir de cet instant, les États-Unis sont devenus un pays où on adore la créature plutôt que le créateur. Jamais a-t-on vu dans toute son histoire les États-Unis plonger aussi bas au niveau spirituel. Le pays subit depuis une tempête de désert de péché. Il a cessé de suivre Dieu, de l'aimer et de le servir. Frères et sœurs, God bless America, c'est dit dans la bouche de n'importe qui. Les pires débauchés, les pires prostituées, les pires pécheurs, God bless you. Dieu te bénisse, mon frère. Des gens qui vont jamais à l'église. Les États-Unis n'ont jamais vécu une noirceur spirituelle comme elle le vit présentement, et ce depuis la guerre qui s'est passée en Irak. Et je suis convaincu qu'ils ont vécu ce qui s'est passé avec Israël, plutôt que de rendre gloire à Dieu qui avait répondu à leur prière, ils ont rendu gloire à la créature. C'est le général Untel qui nous a sortis sauvés, et c'est le secrétaire d'État Untel qui nous a sauvés. Dieu n'est plus du tout dans le décor. Les États-Unis, un pays chrétien, on arrête maintenant les chrétiens qui évangélisent dans les rues. On les met en prison maintenant. C'était impensable, ça, il y a 20-25 ans. Impensable. J'ai eu un message d'un pasteur qui s'est fait arrêter sur le coin d'une rue par des policiers. On ne tolère plus. On a sorti la Bible dans les écoles, on a sorti la Bible dans les institutions publiques. Il y a un combat incroyable pour que le nom de Dieu ne soit plus prononcé en public aux États-Unis. On est en train de payer le prix parce qu'on idolâtrie l'homme plutôt que Dieu. Pourtant, les États-Unis n'avaient jamais remporté une victoire aussi glorieuse. Ils n'avaient jamais vu la main de Dieu les protéger d'une façon aussi miraculeuse que lors de l'intervention militaire. Mais ils ont oublié rapidement les bénédictions que Dieu leur avait accordées durant ce conflit. Et ils sont sombrés dans le désordre spirituel le plus complet depuis la fin de cette offensive, lancée en février 1991, appelée Tempête du désert. Ils se sont fait un veau d'or en disant « Regarde le général Schwarzkopf, celui qui nous a fait sortir de la tempête du désert. » Exactement comme l'avaient fait les Israélites, qui s'étaient fait un veau d'or et qui avaient dit « Voici notre Dieu qui nous avait sortir du pays d'Égypte. » Refusant ainsi de donner la gloire qui revenait à Dieu. Lorsque Dieu nous accorde une bénédiction, qu'il nous manifeste sa bonté, parce qu'il nous a permis de traverser une tempête de difficultés, d'épreuves et de larmes, ou n'importe quelle sorte de tempête, et que par la suite, nous en donnons tout le crédit à quelqu'un d'autre, alors que toute la gloire lui revient, devrions-nous être étonnés, frères et sœurs, de ne pas ressentir la présence de Dieu dans nos vies? Si la première chose qui nous empêche de bénéficier de la présence de Dieu dans nos vies, c'est la désobéissance, si la deuxième chose qui nous prive de la présence de Dieu, c'est un cœur partagé, si la troisième chose qui nous prive de sa présence, c'est lorsque nous dépendons sur quelqu'un d'autre ou sur quelque chose d'autre que Dieu pour diriger notre vie, la quatrième et dernière chose qui nous prive de sa présence, c'est lorsqu'il y a une réticence de notre part à nous soumettre à la volonté de Dieu. Y a-t-il une certaine réticence de votre part ce matin à vous soumettre à la volonté de Dieu? Exode chapitre 32, verset 9. Regardez, l'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. » Qu'est-ce que Dieu veut dire? Que signifie l'expression « cou raide » Dans l'hébreu, cette expression signifie « être réfractaire », c'est-à-dire ne pas être malléable. Dieu voulait les conduire, mais il ressemblait à des chevaux qui raidissent la nuque lorsqu'ils ne veulent pas obéir à un ordre donné. Si nous voulons que Dieu soit une réalité dans nos vies, eh bien, ne soyons pas comme ces Israélites, des gens au cou raide. Si Dieu vous révèle quelque chose de particulier, frères et sœurs, si Dieu vous révèle ce qu'il veut que vous fassiez, alors on devrait lui obéir. Est-ce que Dieu vous a mis à cœur de témoigner à quelqu'un en particulier et vous ne l'avez pas encore fait? Est-ce que Dieu vous met à cœur de servir dans un ministère, dans cette église, peut-être à la garderie, peut-être à l'école du dimanche, peut-être au groupe de jeunes, peut-être au cercle féminin, peut-être au groupe des hommes, et vous dites, je ne veux pas faire cela, ça ne me tente pas. Est-ce que Dieu vous a mis à cœur quelqu'un vers qui vous avez besoin d'aller pour vous excuser ou pour vous demander pardon, afin de vous réconcilier avec lui ou avec elle, et pour restaurer restaurer toute chose avec Dieu, et que vous ne le faites pas? Est-ce que Dieu a placé sur votre cœur une relation que vous devriez mettre fin, parce que cette relation vous éloigne de Dieu, au lieu de vous affermir dans votre foi? Est-ce que Dieu a placé sur votre cœur un désir de participer à un projet missionnaire cet été, ou à vous investir à temps plein dans le ministère, et que vous refusez de répondre à l'appel? Est-ce que le Saint-Esprit, à travers la parole de Dieu, vous presse de faire quelque chose, de visiter quelqu'un, de soutenir son œuvre, et que vous avez dit non, parce que vous avez un couronne, et vous vous demandez depuis pourquoi Dieu n'est pas une réalité en vous? Rendons grâce à Dieu que Moïse a eu suffisamment de bon sens pour dire, considère que cette nation est ton peuple. Et l'Éternel répondit, Exode chapitre 33, les versets 13 à 17. Il n'en est pas question. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Et regardez la belle phrase. On est dans la loi. On est en plein dans la loi. Et regardez la phrase suivante. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Vous savez pourquoi il y a des chrétiens qui vivent dans le péché et puis qui ne ressentent pas la présence de Dieu, qui se remettent en doute leur salut? Moïse nous donne la réponse ici. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple, si tu n'es pas présent dans ma vie? Frères et sœurs, c'est tout à fait normal que si je vis dans le péché, que je ne ressens pas la présence de Dieu dans ma vie, que je puisse remettre en question si je suis né de nouveau, si je suis sauvé. C'est tout à fait normal, parce que la réalité pour un chrétien, c'est que Dieu soit présent au quotidien dans sa vie. Vous êtes amen à ça? Ah oui, hein? Dieu ne s'amuse pas à jouer à cachette avec ses enfants. Ce que Dieu désire, c'est habiter dans le cœur de ses enfants, nuit et jour, 24 heures sur 24, jusqu'à ce qu'il les rappelle à lui. Je comprends le chrétien qui vient me voir et dit, je sais pas si je suis sauvé. J'écoute, est-ce que ta vie est en ordre avec le Seigneur? Ben oui, c'est ça le problème. Tu peux quand même pas permettre au Seigneur de devenir le complice de tes péchés. Ça fait partie de sa sainteté. Il t'aime, mais ça fait partie de sa sainteté. J'ai dit la semaine passée, hein, c'est pas l'amour de Dieu qui nous empêche de vivre dans le péché. C'est la sainteté de Dieu. Vous imaginez un homme qui regarde un film pornographique sur Internet et que Dieu décide, c'est quelqu'un qui fréquente l'Église, et que Dieu décide, tu t'en viens. Et là, sa femme le découvre, là, il est devant l'écran. Ouais. Passait pour un chrétien, un as, hein. Et sa femme, elle voit ce qu'il regardait. Ses enfants, ils voient ce qu'il regardait. Ça, c'est le dernier souvenir qu'ils vont avoir de leur père. C'est le dernier souvenir qu'ils vont avoir de leur oncle. C'est dans les souvenirs que ce chrétien-là va laisser à l'Église. Il est difficile après à l'Église de répondre aux membres. De quoi il est mort? Il est mort où? Qu'est-ce qu'il faisait? C'est embarrassant, hein? Ça, c'est la sainteté de Dieu qui nous rappelle qu'à n'importe quel moment, peu importe ce qu'on fait, peu importe où on est, Dieu peut dire, c'est maintenant. C'est maintenant que je te rappelle à moi. T'as fait ton temps. La sainteté de Dieu m'appelle à vivre comme Dieu me le demande. Et l'amour de Dieu me rappelle combien je dois être reconnaissant. Reconnaissant pour ce que Dieu a fait. Parce que en Jésus-Christ, dans son amour, non seulement il me pardonne mes péchés, mais il me délivre de la puissance du péché et il me permet de vivre comme Christ a vécu. Chapitre Premier épître de Jean, qui n'est pas une épître populaire, hein, mais premier épître de Jean. Celui qui dit appartenir à Jésus doit vivre comme Jésus a vécu. Écoutez, si le Seigneur nous met ça dans sa parole, c'est parce qu'on doit être à quelque part capable. Sinon, Dieu c'est un dictateur, Dieu c'est un oppresseur, quoi. S'il nous met quelque chose qui sait qu'on n'est pas capable d'avance d'arriver, il y a un gros problème, quoi. Moi, c'est pas ce Dieu-là que je connais. Le problème, si j'y arrive pas, c'est pas à cause que Dieu m'a pas donné suffisamment de puissance. C'est peut-être que ma vie n'est pas nécessairement comme Dieu demande à ce qu'elle soit. Dieu n'a rien à s'approcher. Dieu n'a jamais péché, il ne péchera jamais, et Dieu est droit dans ses bottes. Et frères et sœurs, il nous a donné une loi parce qu'il nous aime. Il nous a donné une loi pour qu'on le connaisse par amour. Voici quel genre de Dieu avec qui tu vas passer l'éternité. Voici ma loi. Elle est parfaite. Frères et sœurs, pourquoi Dieu nous a donné les 10 commandements? Pour nous empêcher d'avoir du plaisir? Dans le monde, je croyais ça. Non? Quand tu es né de nouveau, tu t'aperçois que Dieu t'a donné les 10 commandements pour t'empêcher de souffrir. Pas d'avoir du plaisir, de souffrir. Dieu, il sait que chaque péché qu'on s'adonne, il sait que ça nous détruit intérieurement et qu'on va détruire la vie de d'autres. Parce qu'il y a des répercussions dans la vie des autres quand je pratique le péché. Et Dieu dit, écoute, moi je t'aime. Regarde, ça, ça représente mon caractère. Ma loi représente mon caractère, elle représente mes valeurs morales. Et je t'ai donné une puissance en toi, mon Saint-Esprit habite en toi, pour que ton caractère corresponde à celui de Jésus-Christ à la croix. Tu vis, avant de connaître Christ, tu vis selon le premier caractère de premier Adam. Et en Jésus-Christ, tu commences à entreprendre un parcours qui va t'amener à ressembler au caractère du dernier Adam, qui est la personne de Jésus-Christ. Amen. Et à partir de là, écoutez, frères et sœurs, il peut vous arriver n'importe quoi. Pourquoi on va craindre? Pourquoi on va peur des hommes? Vous savez que Dieu est là. Dieu est avec vous. C'est de Dieu qu'on doit avoir peur. Pourquoi dépendre de quelqu'un d'autre? Les hommes vous ont déçu toute leur vie. Pourquoi pas dépendre de Dieu? Dieu ne vous décevra jamais. Amen. En conclusion, Dieu vous aime tellement qu'il manifeste, qu'il veut manifester sa puissance et sa présence en vous et à travers vous. Il veut que vous viviez dans la joie, dans la joie, dans la joie de votre salut et que vous ressentiez en lui, en vous, pardon, cette paix qui surpasse tout ce que l'homme peut comprendre. Une paix que le monde ne peut pas nous donner. Extraordinaire. Est-ce que Dieu est une réalité dans votre vie ce matin? Jésus dit, celui qui retient mes commandements et qui les garde, c'est-à-dire celui qui leur obéit, voilà celui qui m'aime. Mon Père aimera celui qui m'aime, je l'aimerai aussi et je me ferai connaître à lui. Et dans le grec, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est pas je me ferai connaître à lui, je lui apparaîtrai. Et apparaîtrai, c'est comme Dieu dans l'Ancien Testament dans Exode. Je serai présent dans sa vie. C'est extraordinaire. Est-ce que vous réalisez des fois pour un petit compromis combien on se prive de grandes bénédictions? Avec quoi le diable, il joue? Pourquoi il nous fait tomber? Parce que le diable, il nous amène toujours à mettre le focus sur le plaisir que le péché peut nous apporter, jamais sur les conséquences. Vous pensez que si il y avait un écran comme ça dans le jardin d'Éden et que Dieu avait dit à Ève, écoute bien, tu peux manger, Dieu. Non, écoute, moi je suis pas là pour te parler en mal de Dieu. Regarde le plaisir que tu te prives, la connaissance que tu te prives. Mais s'il avait projeté là depuis l'an 1 jusqu'en l'an 2014, tous les drames, les meurtres, les abus sexuels, les guerres, s'il lui avait montré que ça serait la conséquence de son péché, je ne suis pas convaincu qu'elle serait tombée. Mais ça, il prend bien soin d'y cacher. Hein? Et comme nous, il prend bien soin de cacher les conséquences de notre péché. Mais c'est quoi la plus grande conséquence de notre péché, frères et sœurs? C'est d'être privé de la présence de Dieu. Et là, on se dit, oh, encore tomber. Ah, et là, on est malheureux. Hein? Quand tu es né de nouveau, puis tu tombes. Hein? Ça m'arrive de tomber. Hein? Il y en a-tu d'autres, ça leur arrive de tomber? Je me sentais moins coupable, gloire à Dieu. Ben, et là, t'es-tu débiné, quoi? Tu sais qu'il y a quelque chose qui est parti, là. T'as de la difficulté à l'exprimer, mais c'est une gloire que tu peux pas décrire, mais il y a quelque chose qui est sorti de toi, quoi. Le diable a réussi à te faire sortir ça, quoi. Et heureusement, gloire à Dieu, des belles promesses dans la parole. Si nous confessons nos péchés, les fidèles et juste pour nous pardonner tous nos péchés. C'est la grâce de Dieu. Et c'est ça que Moïse crie. Seigneur, si tu ne nous fais pas la grâce, qu'est-ce qu'on va devenir? Ne nous prive pas de ta présence. Et on revient. Et Seigneur, il fait encore un bout de chemin avec nous. Et là, on peut arriver encore pour se faire séduire, quoi. Le plaisir plutôt que les conséquences. Et les conséquences, on sait que ça nous fait de la peine. On sait que ça nous fait mal. Et on sait que ça attriste le cœur de Dieu. Paul nous le dit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Aujourd'hui, Dieu rappelle à son Église à travers la bouche de Jésus, et je termine avec ça, ces mêmes paroles. Sachez-le, je vais être avec vous tous les jours et ce jusqu'à la fin du monde. À l'époque de Moïse, Dieu envoyait un ange pour conduire le peuple d'Israël jusqu'à la terre promise. dans ces temps qui sont les derniers, Dieu a envoyé Jésus-Christ pour libérer les captifs, pour libérer tous ceux qui croient en lui, afin de les conduire dans la terre promise. Inclinons nos têtes.